d'être avec les jeunes le vendredi soir et ensuite de bien manger hier soir et passer du temps ensemble. C'était vraiment une grâce pour nous. Comme vous avez entendu, Sharon a grandi au Gabon alors de manger la nourriture de sa jeunesse et de notre temps aussi au Congo et au Gabon. Ça fait tellement du bien. Et d'être ensemble avec vous, nos amis, je pense que c'était 2018, la dernière fois qu'on était ici. Alors, ça, c'est vraiment une grande joie pour nous de passer du temps ensemble avec vous.
Oui, un grand remerciement. Ce matin, nous voulons partager la parole depuis Ésaïe 43. Ésaïe 43, c'est un chapitre qui est tellement riche d'enseignements. Nous allons essayer de noter quelque chose que Dieu nous a parlé. Ce sont des messages d'abord, que c'est comme un témoignage de ce que Dieu a fait en nous, et je pense que c'est aussi le message qu'il a donné pour passer aux autres et pour édifier son Église. Donc laisse-moi commencer des premiers versets, Ésaïe 43. « Mais maintenant, dit ainsi le Seigneur, c'est lui qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et à travers les rivières, ils ne vous submergeront pas. Quand vous marcherez à travers le feu, vous ne serez pas brûlés. Et la flamme ne vous consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte comme rançon, Cush et Séba en échange de toi. Parce que tu es précieux à mes yeux, et honoré, et que je t'aime. Je donne des hommes en retour pour toi, des peuples en échange de ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne crains rien. C'est le commande le plus répété dans la Bible. Je pense que nous, les êtres humains, on est souvent très peureux, effrayés. C'est pour cela que Dieu répète souvent, ne crains rien, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de mots pour la peur dans la Bible. Certains mots donnent l'idée de fondre comme de la cire. J'aime cette image. Certains signifient une révérence. La peur peut être très utile. C'est un avertissement naturel de danger et elle peut nous pousser à prendre des mesures immédiates et potentiellement vitales. Mais la peur peut aussi nous paralyser, créer d'autres problèmes. Cela peut nous empêcher de faire le bien. Cela peut nous empêcher de vivre ce à quoi Dieu nous appelle. Alors, qu'est-ce que Dieu veut dire dans ce passage à son peuple? Comment pouvons-nous trouver un équilibre entre le besoin et le désir de sécurité et l'appel de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu a à dire à ce sujet? Ce sont des bonnes questions. Que croyons-nous au sujet du risque, de sécurité et de Dieu dans tout cela? Nous avons beaucoup réfléchi et nous continuons à réfléchir sur cette compréhension des vérités de la parole de Dieu et nos circonstances devant nous. Nous avons vu Dieu nous délivrer du danger et nous l'avons vu marcher avec nous à travers le danger. Dans tout cela, nous avons dû lutter avec cette commande, n'ayez pas peur. Une des clés pour pouvoir continuer à avancer avec courage et force est de ne pas avoir nos genoux vaciller comme si nous étions sur le point de fondre comme de la cire. C'est la vérité qui se trouve dans ce passage. C'est la clé pour vivre une vie sans peur, la croyance en ces mots. Parce qu'il s'agit d'une base solide comme le roc. Je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. vous êtes précieux à mes yeux et honoré, et je t'aime. Des vérités apparemment simples, c'est ce qu'on entend le premier jour à l'école du dimanche, Jésus m'aime. Mais vivons-nous vraiment comme si c'était vrai? Parce que c'est profond si nous le faisons. Dieu dit cela à son peuple. Tu as été racheté. Il t'appelle par votre nom. Nos noms sont tellement précieux et personnels. Et il nous appelle par notre propre nom. Tu es à lui. Tu es précieux à ses yeux. Il t'honore et il t'aime.
Dans notre contexte, vous savez que de suivre Jésus et de laisser derrière soit les traditions d'islam peuvent être coûteuses. Et beaucoup de gens ont mal à choisir. Et ce n'est pas parce qu'ils ne pensent pas que la Bible est vraie et que Jésus est vrai, mais c'est plutôt à travers de les conséquences qui vont arriver dans leur vie s'ils prennent cette décision de déclarer leur foi en Jésus. Moi et un pasteur dans un pays voisin, nous étions présentés à lui ça fait quelques années et il est devenu un grand ami à nous, un bon conseiller aussi. Il venait d'une famille musulmane. Il était en train d'étudier pour devenir un leader dans l'islam. Et son désir pour le statut et l'influence a conduit dans certains chemins qui n'étaient pas tellement bien. Alors, il a passé quelque temps en prison à cause de ça. Pendant ce temps en prison, il a vu qu'il y avait les missionnaires et les chrétiens qui étaient en train de venir en prison. Mo n'était pas du tout content avec ça, parce qu'il savait que ces chrétiens-là, ils sont venus pour convertir ses frères musulmans. Alors il a décidé, moi je vais faire quelque chose, je vais étudier la Bible afin de montrer aux chrétiens que leurs croyances sont fausses. Alors, il a trouvé une Bible et il a commencé à étudier ce livre pour chercher les erreurs qu'il savait devaient être là. Probablement, vous pouvez deviner la fin de cette histoire. Dieu, dans sa miséricorde, le plus que moi a étudié, le plus qu'il a vu les histoires dans le Coran et l'histoire dans la Bible, il était tellement, il a compris que c'est la Bible qui avait la vérité. Et finalement, il a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ. Maintenant, cette décision n'était pas vraiment accueillie par sa famille. Sa famille était musulmane et il n'était pas content. Et dès qu'il a déclaré sa foi, la persécution est arrivée chez lui. Il savait que la famille a fait tout pour ne pas donner l'aide à lui, pour ne plus donner le soutien, pour faire les choses, même d'offrir de l'argent afin qu'il revienne à l'islam. Mais Mo avait pris cette décision. Il avait compris cette vérité et il était décidé de suivre Jésus. Finalement, son oncle a demandé qu'il vienne en Guinée pour une rencontre. Les autres chrétiens ont dit, « Ah, il ne faut pas aller. Tu sais que ton oncle, il était haut dans le militaire. Il pouvait tout faire. » Mais il a compris que Dieu est en train de lui appeler à aller à cette réunion. Alors, il est allé, il était là. Son oncle était en face de lui. Sa mère était là, les tantes, les oncles étaient là, et aussi les autres enseignants d'islam étaient là. Mais Mo n'avait pas peur, parce qu'il savait que Dieu l'avait appelé d'aller. Il savait que Jésus a souffert, moi aussi je peux souffrir. Il a compris que dans la Bible, le Saint-Esprit a dit, je vous donnerai les paroles pour répondre quand vous serez en face des situations difficiles. Alors, mot est allé avec la paix. Et le Saint-Esprit lui a donné les paroles pour cette journée-là. Chaque fois qu'ils ont demandé des questions, Mo était capable de répondre. Et quand son oncle a dit à les autres qui étaient là, « Est-ce que ça, c'est vrai? » Ils ont dit, « Ah, mais ça prend beaucoup de temps pour étudier et on ne sait pas. » Il n'était pas capable de répondre à les paroles du Mo. À la fin de cette réunion, l'oncle a dit à Mo qu'il pouvait sortir. Et Mo a constaté que la relation avec son oncle a changé ce jour-là. Son oncle n'était plus opposé à Mo. Et à la fin de sa vie, c'est à Mo qu'il a donné l'héritage de cette famille. C'est quand ils avaient des problèmes, c'est à Mo qui devait aller. On ne sait pas si son oncle a décidé de suivre Jésus. Un jour, on saura. On va connaître s'il est avec nous au ciel. Mais on sait que sa vie était changée. Et Mo avait la confiance que Dieu sera avec lui. Il n'avait pas peur de cette réunion. Même s'il devait mourir, il n'avait pas peur. Parce qu'il sait que Jésus était avec lui. Il savait qu'il était aimé, qu'il était accepté, qu'il était précieux de son Père et que son Père céleste a choisi à l'aimer. Il n'avait pas peur dans cette situation. Nous avons une autre amie. On va l'appeler Otis. Et Otis, il est avec nous au Sénégal. Il est en train de peser le prix, le coût de suivre Jésus. Il a beaucoup entendu l'évangile de notre ami Dr. So qui est allé au ciel. De nous aussi, il a nombre de fois, il était dans les études bibliques que nous avons faites. Il a beaucoup entendu la nouvelle de Jésus. Il a eu des discussions avec ceux qui sont là. Et il sait que c'est la vérité. Mais Otis a peur. Parce qu'il sait que dès qu'il va déclarer sa foi en Jésus, il y aura des choses difficiles qui vont arriver. Il sera expulsé de sa famille. La famille peut venir prendre sa femme, prendre son enfant. Et il n'a plus de choix. Ils peuvent faire ça. Ça a déjà se passé avec un autre croyant au Sénégal. Et même beaucoup des autres choses peuvent arriver. Otis, il a peur. Parce qu'il sait que de suivre Jésus, ça va lui coûter beaucoup. Il est contrôlé par la peur. Mais nous prions pour lui que il va trouver le courage de prendre cette décision de suivre Jésus, de donner sa vie à Jésus. Il sait que c'est la vérité, mais c'est difficile de prendre ce pas et de déclarer sa foi. Si je pouvais vous encourager aujourd'hui, je voudrais vous demander de réfléchir à quel est le rôle que la peur joue dans ma vie. Dans notre vie, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de nous empêcher à faire ce que Dieu veut faire à travers de nous? Au cours de cette année écoulée, il y avait beaucoup de défis qui étaient en face de nous. Et nous devons toujours revenir à les vérités que nous venons de discuter, de parler de, que nous étions rachetés. Nous sommes appelés par le nom de Jésus. Qu'il nous voit. Pas comme je me vois moi-même ou comme les autres me voient, percevoir. Mais Dieu me voit. Je suis précieuse dans ses yeux. Je peux aller de l'avant et entrer dans les choses qui sont autour de moi, qui normalement pouvaient me paralyser. Mais je peux aller parce que ce n'est pas la peur qui doit me contrôler. C'est mon relation avec Dieu qui doit contrôler cette situation. Ça, c'est ce que je prie pour Otis, qu'il va connaître cette vérité. Mais nous prions ça pour nous tous, que vraiment Dieu va nous aider quand nous sommes en face de la peur.
Si on continue dans ce passage d'Ésaïe, nous trouvons une autre vérité qui est liée avec ces vérités fondamentales. Dieu dit à son peuple, « Vous êtes mes témoins. » Il y a un lien entre cette idée de savoir qui nous sommes en Christ, comment Dieu nous voit, et cette idée d'être témoin de ce que Dieu a fait en nous. Tu sais, tout au long des Écritures, nous voyons ce modèle. Dieu appelle quelqu'un à lui-même. Peut-être il lui dévoile une partie de son caractère, sa sainteté, son amour, sa gloire. Et ensuite, il les envoie pour en être témoin. C'est un Dieu qui envoie. C'était l'expérience du prophète Ésaïe au chapitre 6, de Moïse et de l'apôtre Paul. C'était la mission de son peuple. Le peuple de Dieu a été béni par Dieu pour qu'il puisse être une bénédiction pour toutes les autres nations. Les gens viendront de l'Est et de l'Ouest, de tous les coins du monde, dit ce passage. Mais comment sauront-ils la grandeur, la puissance et la sainteté de Dieu si nous ne les communiquerons pas? Vous êtes mes témoins, déclare le Seigneur. Parce que vous n'avez pas à avoir peur, vous êtes sur une base solide, comme le roc. Vous pouvez y aller, vous pouvez suivre Dieu. Paul, l'apôtre Paul, écrivait au même sujet dans son lettre de 2 Corinthiens 5. D'abord, il nous rappelle ce que Dieu a fait pour nous, notre rédemption, notre salut. Et maintenant, donc, à cause de tout cela, il dit dans le verset 20, nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, comme si Dieu faisait son appel à travers nous. Il y a un lien entre savoir qui vous êtes en Christ et être sans peur et avoir la liberté de témoigner. J'ai une amie qui est très timide, introvertie. Et elle dit souvent qu'elle a du mal à trouver des bons mots pour s'exprimer sur le moment. Tu sais, il y a certaines personnes qui ont le don de pouvoir réfléchir tout à l'instant. Mais il y a d'autres que la bonne réponse ne vient que quelques heures plus tard, même quelques jours plus tard. Et on dit, ah, si j'avais pensé à ça, j'aurais répondu comme ceci. Et cela peut nous amener à avoir des sentiments que nous ne sommes pas aussi bien que les autres. Nous ne sommes pas capables de partager l'Évangile avec les autres. Et même que nous ne sommes pas assez dignes ou capables d'œuvrer pour Dieu. Mais l'année dernière, j'ai vu un changement énorme dans mon amie. Elle est plus confiante. Elle s'exprime là où auparavant elle serait restée silencieuse. Et c'est en grande partie parce que Dieu a fait une œuvre dans son cœur et l'a amenée à une compréhension plus profonde de qui elle est en tant que fille du roi. Elle ne le sait pas seulement dans sa tête qu'elle est bien aimée, mais elle le sait au fond de soi-même. Il y a quelques semaines, elle s'est sentie poussée par l'esprit d'aller de l'autre côté de la rue chez sa voisine et de partager l'Évangile. Il y a quelques années, cette pensée l'aurait totalement intimidée et aurait causé une grande anxiété. Mais elle a traversé avec confiance et avec un courage qui ne la caractérisait pas. Et elle a témoigné de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, a permis que la conversation ne fût pas interrompue. Mon amie a pu partager l'Évangile. Elle a pu répondre à toutes ses questions. Elle a clairement partagé son espérance en Christ. N'ayez pas peur, dit Dieu à son peuple. Je vous ai aimé. Et l'implication dans ces versets suivants est que nous pouvons être et nous les témoins pour les nations. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ, comme si Dieu faisait appel à travers nous.
Cet passage parle que je vais faire une chose nouvelle, une rivière dans le désert. Je ne sais pas si vous étiez au désert, mais une chose qui manque dans le désert, c'est l'eau. Quand il y a l'eau, tu auras beaucoup de bons arbres et tout ça. Mais ça manque dans le désert. Mais écoutez les mots qui continuent à partir de verset 16. Ainsi dit l'Éternel, qui a traversé la mer et a ouvert un chemin, et dans la grosse eau, a frayé un sentier qui a sorti les chars et les chevaux.
Pardon. C'est un peu dur, hein? Ainsi dit l'Éternel, qui à travers la mer a ouvert un chemin, et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Ne vous rappelez plus les événements du passé. Ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe.
Dieu a rappelé à son peuple ses actes puissants qu'il a fait dans la délivrance, de libérer les peuples d'être esclaves en Égypte. Et qu'ils étaient maintenant, ils étaient envoyés dans le pays de Canaan. Et ils étaient maintenant son peuple. Mais tu sais, à ce moment-là, ils n'étaient plus en Canaan. Ils étaient dans un autre pays, loin de cette place que Dieu leur avait donnée. Et ils commençaient à douter, « Ah, est-ce que les promesses, est-ce que les bénédictions de Dieu sont toujours vraies? » Parce que nous ne sommes plus au Canaan. Mais Dieu était en train de le rappeler qu'il est toujours avec eux. Il a continué à promettre les nouvelles bénédictions. La puissance qu'il a démontrée dans le passé était toujours là. Dieu est toujours le même, hier et aujourd'hui. Mais souvent, nous tombons dans le piège de penser, « Ah, nous ne voyons pas Dieu en train de travailler aujourd'hui comme il a fait dans le passé, ou alors peut-être il n'est plus là. » Mais c'est que Dieu est toujours là, mais il veut faire les choses nouvelles. Et c'est ça qu'il parle dans ce passage, qu'il y a une nouvelle façon, une nouvelle façon qu'il va travailler. Mais il y aura, dans ces nouvelles expressions de sa grandeur et sa puissance, il va faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui est différent. Il va emmener l'eau dans le désert. Nous avons prié ces versets pour le Sénégal, d'avoir les eaux vivantes dans ce pays. Vous avez déjà entendu qu'on a parlé de les Wolofs et les Peuls sont 11 à 12 millions de personnes avec moins de 500 croyantes. Dans tout, on a au moins un pasteur Wolof dans tout le pays. On n'a pas de pasteur Peul dans le pays, pas encore. Alors, quand nous voyons tout ça, on a besoin de l'eau vivante. On a besoin que le Saint-Esprit travaille dans cette place. Qu'il fait une nouvelle chose, qu'il emmène les rivières. Et alors, nous habitons à côté de la Sahara. Et quand le vent souffle, le sable, ça tombe sur nous. Ça entre dans nos maisons. Tu peux nettoyer la maison et une heure après, il y a toujours la nouvelle poussière qui arrive. Et on a besoin de quelque chose de nouvel, de nouveau. On a besoin de cette source spirituelle qui va toucher partout dans notre pays. L'une des choses que Dieu, la nouvelle chose que Dieu est en train de faire, c'est les nouveaux partenariats. Nous sommes bénis au Sénégal. On a les gens qui étaient là depuis longtemps pour travailler. Un ami, il est troisième génération missionnaire au Sénégal. Mais tu sais, dans le passé, souvent les gens ont travaillé un peu séparés. Un groupe a fait ça, un autre groupe a fait ça. Mais Dieu est en train de changer les choses, petit à petit. Et les missions qui souvent étaient à part sont en train de voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Nous avons les peuples comme les Wolofs, comme les Peuls, et on n'a pas vraiment touché tous ces peuples. Ça fait plus que 100 ans que l'Évangile, les missionnaires sont là, sans avoir un grand impact dans ces peuples, et dans, il y a les autres aussi. Mais Dieu est en train d'aider ces groupes missionnaires à voir comment nous pouvons travailler ensemble. Ça, c'est une nouvelle chose qui est en train de se passer au Sénégal. Et on rend gloire à Dieu pour ça, qu'on peut travailler ensemble avec des autres organisations qui ont la même passion d'avoir les églises parmi les Wolofs, les églises parmi les Peuls. Il y a une autre façon que nous sommes en train de voir cet partenariat s'avance. C'est qu'il y a au moins 6 pays représentés où il y a les travailleurs, les missionnaires de l'Alliance chrétienne qui sont au Sénégal. D'habitude, on sait que il y a les Canadiens, il y a les Américains, il y a les gens de Hollande qui sont là. Ça, c'est normal. On a vu ça au Gabon, on a vu ça au Congo. Mais au Sénégal, c'est différent. On a les nouveaux partenariats qui sont en train de développer. Il y a déjà les gens de l'Équateur qui sont là. Une femme de Pérou qui est là. Il y a les gens de Colombie qui viennent. Il y a les gens de Hong Kong qui sont là. Il y a un autre couple qui va venir, j'espère l'année prochaine, qui veut faire partie de notre équipe. Et leur première langue, c'est mandarin. Ils sont de l'Asie. Et ça va encore nous forcer de changer, de voir comment nous pouvons faire. On est en train de leur demander d'apprendre un peu d'anglais, mais après, il faut qu'ils apprennent le français. Parce que c'est probable le français qui sera la langue de notre équipe. Mais nous voyons que Dieu est en train de faire une nouvelle chose, qu'il est en train d'ouvrir les portes et d'emmener les autres pays, les pays où ils étaient en train de recevoir les missionnaires, ça fait moins de 20 ans. Mais maintenant, ils sont en train d'envoyer. Et il y a aussi on attend aussi les frères de l'Afrique qui vont venir pour travailler avec nous. Tu sais, quand nous voyons ce que Dieu est en train de faire, nous ne voulons pas être liés dans les choses du passé, comment on a fait ça dans le passé, mais nous voulons être prêts à faire ce que Dieu veut faire dans l'avenir, de changer et de voir comment il va le faire. Dieu est un Dieu créateur. Il veut toujours faire les choses dans une nouvelle façon. Et nous voulons être ses partenaires, de travailler ensemble afin que cette œuvre avance au Sénégal et que ces nouvelles choses va emmener l'eau vivante dans cette terre qui est sec, qui n'a pas de l'eau. Et nous prions pour les nouvelles sources d'eau qui va déborder cette place au Sénégal.
Donc peut-être c'est parce que nous vivons dans un pays à côté du désert, mais ces versets dans Ésaïe qui parlent de nouvelles sources et de rivières dans le désert, ça nous touche vraiment à cœur. Et ça fait partie de nos prières pour le Sénégal depuis longtemps. Nous prions pour l'eau dans ce désert. Et nous prions dans le sens physique, mais aussi dans le sens spirituel. Que Dieu puisse faire ça dans notre désert. Et c'est comme on prie pour le réveil. Mais il n'y a pas longtemps, quand on était vraiment en train de prier dans ces lignes avec notre équipe, Dieu nous a interpellés. Et il m'a dit personnellement, Sharon, je veux faire ça pour le Sénégal. Je veux faire fleurir le désert du Sénégal. Mais d'abord, je veux que cette source d'eau, que ça soit en toi. Je veux que toi-même, tu sois une source d'eau qui déborde et qui touche les autres. Donc, je veux que c'est toi qui es la source, que toi, tu fais partie de cet accomplissement, de cette promesse. Donc, ce n'est pas seulement pour ce qui est dehors de moi, que je puisse voir le réveil, mais que ce réveil commence en moi. Dans Jean 7, Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Quiconque croit en moi, comme l'Écriture a dit, coulera de son cœur des fleuves d'eau vive. Tu sais, il y a une phrase qui continuait à me traverser à l'esprit. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Donc ma prière est que je sois toujours remplie de Jésus, débordant et apportant l'eau vive à ceux qui m'entourent. On est en train de faire des tournées des églises. Ce passage, nous avons déjà prêché, je ne sais pas combien de fois maintenant. Mais chaque fois, Dieu me montre quelque chose. Et tout récemment, il m'a aussi encore montré une autre vérité liée à ce passage. Tu sais, nous sommes en train de creuser un puits. On a beaucoup parlé de ça auprès à la jeunesse et puis hier soir. Parce que Dieu nous a donné un terrain que nous voulons développer pour être un centre de discipulat et aussi un centre de sécurité et de refuge pour les croyants, les nouveaux croyants. Mais la première des choses, c'est que nous avons besoin de l'eau. Donc, nous avons une équipe qui est en train de creuser à la main cette puits d'eau. Et pendant qu'ils descendent, ils ont atteint à peu près 30 à 35 mètres. Maintenant, ils ont trouvé une couche de roche très, très dure. Et le travail a beaucoup ralenti. Ils sont vraiment en train de ciseler cette pierre à la main, enlever les roches dures afin que l'eau qui est en dessus puisse être atteinte. Tu peux voir un peu une de ces roches qu'ils ont enlevées. Mais je pense qu'il y a une application spirituelle ici aussi. Pour que l'eau vive jaillisse dans nos vies, il y a souvent des obstacles ou des rochers dans nos âmes qui doivent être déterrés et ramenés à la surface afin que l'Esprit puisse remplir pleinement nos vies d'eau vive. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons dire sur ce passage et je vous encourage de le regarder vous-même. Dieu nous rappelle son amour pour nous. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Aucune raison de fondre comme de la cire. Mais nous pouvons plutôt faire des choses courageuses parce que nous sommes aimés et appelés par notre nom. Dieu vous a-t-il appelé à quelque chose qui te demande d'avoir du courage? N'aie pas peur. Tu es précieux à ses yeux. Dieu nous envoie comme ses ambassadeurs, comme ses témoins. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie dont tu es témoin? Et Dieu nous promet de nouvelles choses, des sources d'eau et des rafraîchissements dans les endroits secs et arides. Et il promet cela non seulement comme quelque chose d'extérieur à nous que nous pouvons observer, mais que ces ruisseaux d'eau débordantes qui donnent la vie sont pour nous aussi. Avez-vous soif de plus de Dieu? L'eau vive de Dieu coule-t-elle de vous? Ou y a-t-il des pierres qui doivent être enlevées afin que l'Esprit puisse vous remplir une fois de plus jusqu'à déborder? C'est notre prière pour le Sénégal. Voulez-vous nous joindre, vous joindre à nous pour que la gloire de Dieu soit vue parmi les peuples Wolof et Fulani? Merci.